massettes. Ce sont des grandes. Ça fait un peu comme du ruban en fait quand on l'humidifie. C'est vachement souple ça. Parce que l'osier, c'est quand même, vous allez sentir, c'est quand même un peu costaud, quoi. C'est quand même des branches, en fait, au départ. Donc, il y a un peu de résistance, il faut mettre un peu de force dans les mains.
Et c'est tout le même arbre ?
Alors, l'osier ?
Oui.
Oui, c'est du saule. En fait, c'est du saule. Vous connaissez peut-être des saules ? Les saules pleureurs, par exemple ? Ça vous parle ? Voilà, donc bah, les saules pleureurs, quand on les laisse se développer en arbre, ils peuvent devenir très, très gros. Mais l'osier qu'on cultive pour la vannerie, on le plante de manière très serrée. Tous les 10 cm, on plante un brin d'osier et on coupe tous les ans. Donc c'est les pousses d'une année, en fait. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas le temps de se développer en arbre et qu'on a des branches, enfin des tiges assez fines et longues. Voilà, donc en fait, on taille tout en hiver. On met tout en botte pour le faire sécher. Donc les osiers bruts, on les met dans un grenier pour que ce soit ventilé et que ça sèche. Celui qu'on veut faire peler ensuite, on le met en botte debout les pieds dans l'eau et on attend le printemps. Et au printemps, il pense qu'il est toujours en terre. La sève remonte dans les brins et ça permet de décoller plus facilement les écorces. Voilà. Après, il existe plein de variétés qu'on peut tresser, en fait. Du châtaignier, du noisetier, du frêne... après, dans les lianes, il y a la clématite sauvage, il y a le lierre. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver en vous promenant. La ronce.
Ça fait mal. Ça
pique. Ouais, ça pique. Alors, on met des gants, et puis on enlève les épines, et puis on fend les brins. Et en fait, ça demande beaucoup de travail de préparation. C'est pour ça qu'on en utilise moins. En même temps, on pourrait se dire, bah, c'est super, il y en a partout. Je vais faire que des trucs en ronce, je vais pas devoir acheter mon osier. Mais du coup, ben, il faut passer du temps à aller le chercher, à le récolter, épépiner, fendre. Voilà, donc ça demande quand même beaucoup de travail de préparation. Voilà, donc ça, c'est sur les matières. Après, ben, tout à l'heure, vous me posiez une question sur est-ce que je travaille avec d'autres personnes. Donc, par exemple, vous pouvez voir les lampes qui sont là-bas. Ça, c'est ce que je fais avec ma collègue souffleuse de verre. Vous pouvez peut-être les allumer, les garçons, vous êtes plus près là-bas. Voilà, qu'on voit un peu ce que ça fait. Avec les pièces en verre soufflé, ça permet de faire... de refléter un peu la lumière et tout. C'est intéressant.
Mais comment vous faites pour que ça reste dans la forme zigzag?
Ce qui est suspendu en haut, là?
Oui.
Là-haut. Et ben en fait, c'est mon secret de fabrication, donc je vais pas te le dire. Non, c'est une blague. Mais en fait, je lui fais un peu comme une mise en pli, comme pour les cheveux, en fait, hein, le système du bigoudi, en fait. Voilà. C'est un peu la même idée. Je mouille les brins pour pouvoir les tresser, je leur mets des bigoudis, et après, je les fais sécher en forme. Mais c'est quand même un peu mon secret, je vous le dis, mais... En fait, c'est pas un secret, mais c'est une idée que j'ai trouvée en faisant une erreur. J'avais souvent... les erreurs, ça permet après de découvrir des choses, de nous amener vers des chemins vers lesquels on n'irait pas. En fait, j'avais fait une anse de panier. Donc, je peux peut-être montrer un panier traditionnel. J'avais fait une anse de panier de ce type. Et en fait, la anse s'est démontée. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en enlevant les brins, et ben, il restait en forme, en fait, avec ce petit frisottis. Et du coup, ben, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'avais eu envie de l'utiliser dans d'autres choses. Comme là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a passé une commande d'une méduse géante. Oh. Donc voilà. Donc là, je lui ai fait des tentacules frisottés. Voilà, que vous dire d'autre
Mais en fait, ça fait comment pour que ça se fasse comme ça, là?
Pour que ça se fasse comment?
Un espèce d'une vague comme ça.
Courbé?
Ouais.
Galbé?
Ouais.
Alors bah ça, en fait, c'est simplement un geste.
Un moule.
Ça permet de... On pourrait le mettre sur un moule, mais ça permet... En fait, il suffit de casser la fibre du brin. Alors attention, je vais passer là. Merci. Donc là, c'est de l'osier que je vous ai préparé pour vous tout à l'heure. En fait, quand on prend un brin d'osier, vous voyez, c'est droit, en fait. Donc il y a un gros côté, c'est ce qu'on appelle le pied du brin. Donc c'est celui qui est rattaché au tronc. Et un fin côté, ce qu'on appelle la cime, c'est la pointe en fait. Voilà, et donc là, il est tout droit. Et ensuite, quand je veux le mettre en galbe, j'utilise en fait mon genou et je vais venir casser la fibre à l'intérieur du brin. Et maintenant, mon brin, il est un peu galbé.
Et si on veut faire plus ?
Et si on veut le faire plus, eh ben, il faut le faire encore plus. Voilà. Et après, si on veut vraiment que ça le fasse... Une fois que la fibre est cassée grâce à ce geste, ça vous permet ensuite de pouvoir faire des choses... Vous voyez, c'est quand même super souple. Hein. C'est du bois, là. Donc voilà. Après, si on veut vraiment que ça garde tout ce galbe-là, il faudrait pouvoir le faire sécher en forme. C'est-à-dire le laisser comme ça, en mettant des poids dessus et attendre que ça sèche pour pouvoir garder ce galbe. Mais bon, déjà, là, on a quand même... on est parti d'une branche droite et on obtient quelque chose de courbé, de galbé. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je voulais vous faire essayer le tressage, parce que c'est bien beau d'en parler, mais c'est quand même plus intéressant de toucher la matière et puis de se rendre compte un petit peu de comment ça se passe. Alors, du coup, je vous propose qu'on retourne dans la salle où on était et on va démarrer au moins faire la structure du poisson. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tremper de l'osier blanc, de l'osier écorcé, pour faire la structure du poisson. Donc en fait, vous allez devoir prendre un brin et faire comme je vous ai montré au niveau du geste, c'est-à-dire utiliser le genou. Et ça, comment ?
Plus si ça peut craquer, non ?
Alors normalement, c'est bien trempé, tu vois ? Alors après, vous pouvez décider de le faire arrondi, comme je vous ai montré, ou de faire un pli si vous avez un ongle. Voilà, de faire juste en appuyant dessus. Ensuite, vous prendrez un petit brin d'osier brut. Ensuite, vous prendrez un petit brin d'osier brut. Vous ferez la même chose, en fait, pour casser la fibre sur votre genou. Bon, vous inquiétez pas, ça va pas abîmer les vêtements. C'est peut-être un peu mouillé, parce que voilà, faut que ce soit trempé. Et avec ça, il va falloir trouver une astuce pour que ça tienne. Donc là, vous faites un nœud comme vous pouvez. Vous essayez de passer dessus, dessous, peut-être faire des 8, en faisant des 8.
Rentrez, ici, bonjour.
Alors, du coup, vous êtes à la Chartreuse Saint-Cran-Jarret. Est-ce que le terme de chartreuse, ça vous parle ou pas du tout ?
Non.
Pas du tout. Donc, vous ne savez pas du tout, là, ce qu'on va visiter ensemble ?
Non.
D'accord. Alors, une chartreuse, c'est un monastère où vivent des moines chartreux. Donc, ici, vivaient des moines chartreux. Et... la particularité de ce site, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus un monastère, puisque quand il y a eu la Révolution, eh bien, les moines ont été chassés. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, le site a été vendu aux enchères, et en fait, il y a une répartition du site en différents lots, et ce sont en fait les gens qui étaient autour du monastère qui se sont chacun partagé les lots, et ils se sont installés à l'intérieur du monastère. Donc aujourd'hui, là, c'est la maquette du site avant la Révolution, mais ça correspond en fait au plan du village, d'accord ?
Je vous interromps. Oui ? Vous vous souvenez pourquoi les biens religieux comme ça ont été vendus à la Révolution ?
Pour faire plus d'argent.
Et cet argent, pour quoi faire ?
Pour
remplir
les caisses de l'État.
Pour remplir les caisses de l'État, vous vous rappelez ? On en a parlé la semaine dernière.
Non, mais allez-y, pas de souci. Alors, bon, vous savez ce que c'est déjà qu'un moine quand même, hein, oui. Quelle est la particularité du moine ? Particularité, pardon. Alors, oui, là, tu rentres dans le détail. Effectivement, on peut parler de moine copiste, mais quel est le quotidien d'un moine ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Prier.
Voilà, il prie et il se rassemble, en fait, ensemble, d'accord, dans un monastère. Donc, les chartreux donc, vivaient dans ce monastère. Et alors, il y a trois mots essentiels à retenir pour les chartreux qui vont vraiment déterminer leur quotidien. Ce sont prière, solitude et silence. Voilà, faut vraiment avoir en tête qu'ils ne se parlent quasiment jamais et qu'ils passent vraiment une grosse partie de, enfin, leur temps à prier. Et donc, ils vont se rassembler ici. En tout cas, c'était le cas à Sainte-Croix-en-Jarret. Donc, la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret a été créée en 1280 et donc elle a fonctionné pendant 500 ans, puisque je vous ai dit qu'à la Révolution, les moines avaient été chassés. D'accord ? Donc là, on a, je vous disais, donc la maquette qui représente le site avant la Révolution. Vous diriez qu'il y a combien de parties ?
Deux.
Trois. Alors, montrez-moi les trois parties. Voilà, ok. Alors, c'est pas anodin, cette répartition en trois parties. C'est parce que chez les Chartreux, on a deux types d'hommes qui vivent à l'intérieur du monastère. Vous avez les frères et vous avez les pères. Bon, c'est comme ça, ça veut pas dire qu'ils ont des liens de parenté entre eux, c'est le nom qu'on leur donne, d'accord ? Et alors, ces frères et ces pères vont avoir un quotidien différent. Les frères vont être là pour faire vivre le monastère. Je vous ai dit... Rappelez, c'est quoi les trois mots qui définissent le quotidien des Chartreux ? Voilà. Donc, ils vivent dans la solitude. On dit qu'ils vivent comme des ermites. Vous savez ce que c'est qu'un ermite ? Voilà, ils vivent complètement seuls. Donc, vous comprenez bien qu'il faut quand même pouvoir vivre. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir cette catégorie de moines qui sont les frères qui vont... travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire comme type de travail ?
Potager.
Voilà, qui vont s'occuper des potagers pour subvenir aux besoins économiques de la communauté. Donc, vous voyez ici, là, sur la maquette, et alors vous n'aurez certainement pas le temps de faire le plan de l'extérieur, mais en tout cas, là, vous avez des potagers qui existent encore aujourd'hui, qui sont cultivés par les habitants du village. Donc voilà, les frères vont s'occuper plutôt des travaux manuels. Pour faire vivre le monastère.
Ils prient jamais, eux ?
Ah si, bien sûr, ils prient, ce sont des moines. Hein. Mais c'est juste qu'une partie de leur temps est consacrée à la vie du monastère. Ce qu'ils vivent, les Chartreux, en totale autonomie et autarcie. Hein. Donc il y avait vraiment rien qui entourait le monastère, etc. C'était d'ailleurs difficile d'accès, mais voilà. Donc il fallait que sur place, il y ait les éléments indispensables pour vivre. Qu'est-ce qu'on voit comme élément sur la maquette qui est indispensable pour vivre ?
De l'eau.
De l'eau. Donc, hein, je vous disais, ça c'est la maquette avant Révolution, donc cette eau, les deux ruisseaux que l'on voit ici, existent encore. Par contre, on n'a plus... Les potagers aussi, oui. Par contre, on n'a plus... Ça, c'est quoi, votre avis ?
Des bassins.
Des bassins, donc des bassins qui servaient donc, de vivier pour les poissons, d'accord ? Donc les frères, en fait, étaient regroupés ici, tandis que les pères, eh bien, ils vont être... plus reculé hein, dans les bâtiments du monastère, on va appeler cet espace-là la cour des pères. Et donc, c'est vraiment l'endroit où ils vont se consacrer à la prière. Et ce sont tous ces petits bâtiments qui sont... Enfin, petits. Tous ces bâtiments qui sont en forme de L, qu'on appelle des ermitages. Et bien, chaque père avait son propre ermitage. Vous voyez, aujourd'hui, les habitants vivent dans les anciens ermitages des pères chartreux. Alors, ils ont fait quelques modifications depuis la Révolution, mais vous avez toujours cette architecture. Il y a certains, vous voyez, c'est ce qui forme c'est une forme de L, hein, vous êtes d'accord avec moi ? Ça, ce qui forme le bâton du L, c'est ce qu'on appelle un promeneur. Je vous l'expliquerai quand on sera dans un ermitage de père. Bah, depuis la Révolution, il y a certains promeneurs qui ont été démolis. Simplement, ici, vous avez la troisième. Donc, on a bien parlé de trois zones. Et donc, ça, c'est ce que l'on appelle la zone cénobitique, qui veut dire communautaire. Donc, c'est là où les pères et les frères vont se rassembler. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la zone communautaire,
l'église.
À votre avis ? L'église, bien sûr, pour prier.
Le sel.
Alors, on appelle ça le réfectoire. Voilà. Il va y avoir l'infirmerie, etc. Tous les lieux où frères et pères peuvent se rassembler. D'accord, ça va ? Eh bien, on va aller à l'extérieur, du coup.
Alors, je ne vais pas trop m'attarder, mais là, donc, si on observe la façade, vous voyez qu'il y a des portes et fenêtres. Simplement, il faut l'imaginer différente à la Révolution, avant la Révolution, puisqu'en fait, elle n'avait aucune ouverture sur l'extérieur. Vous aviez simplement, vous voyez, des petites ouvertures qu'on appelle comment ?
Pardon. Meurtrières.
Voilà, des meurtrières, qui sont en forme de croix sur le globe. Et cette croix sur le globe, c'est le symbole des Chartreux qui correspond à leur devise qui est « le monde tourne, mais la croix demeure ». D'accord ? Donc, ce qui veut dire que le temps passe, mais la religion est toujours là. Et cette croix sur le globe, on la retrouve au centre de la façade, entourée de sept étoiles. Et les sept étoiles, ici, représentent les sept premiers Chartreux fondateurs de l'ordre. Donc, j'ai dit que la Chartreuse avait été créée en 1280 pour Saint-Croix-en-Jarret. Mais le premier monastère de Chartreux date de 1084. C'est Bruno qui était à l'initiative de la création de cet ordre, qui a créé son premier monastère à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Pierre-de-Chartreuse. C'est pas très loin d'ici, c'est entre Chambéry et Grenoble. Voilà.
Ok. Donc on va rentrer dans la cour des frères.
C'est sa maison.
Qu'est-ce qu'ils faisaient les frères, rappelez-moi?
Priaient.
Non. Enfin oui, mais quoi, donc, voilà.
Ils potageaient.
Donc besoin économique de la communauté. Et donc leurs ateliers étaient de ce côté-ci. Ben, justement là, vous étiez avec Alexandra juste avant, oui. Hein, c'est ça? Et ben Alexandra se situe dans un ancien